Bonsoir, chers auditeurs, c'est Radio Libertaire 89.4 et DAB plus, c'est Yves au micro et c'est une émission enregistrée. Cette émission, c'est GMC plus, Gabriel, Maurice, Claude et les autres. Si vous avez écouté la semaine dernière, lundi dernier pour être précis, l'émission Trou Noir, vous avez eu les présentations de trois émissions, dont la mienne, où j'explique un petit peu le contexte de cette nouvelle émission. Nous en sommes donc au troisième volet, et ce soir, ce sera une émission consacrée à Claude Debussy, exactement le travail piano, le travail du piano, de quelques œuvres pour piano, parce que Debussy en a fait beaucoup, et j'ai choisi spécifiquement un opus très particulier, puisqu'il s'agit du livre 2. Des études pour piano et surtout, alors là, il faudra que je dise un mot également, il s'agit du deuxième livre des préludes de Debussy, joué par le pianiste russe Sviatoslav Richter. Voilà. Donc, c'est une émission enregistrée, il n'y a pas de possibilité de téléphoner. Nonobstant, vous avez la possibilité de réécouter l'émission pendant 12 mois à partir de la fin de la diffusion en podcast. Vous allez sur la page de la radio, radiolibertaire.net ou org, je ne sais plus, mais vous faites Radio Libertaire. Vous avez l'agenda, vous avez l'ensemble des programmes, des émissions. N'oubliez pas de télécharger la souscription. Nous avons besoin de votre aide pour maintenir le matériel. Comme vous le savez, ça s'use. Voilà, donc vous avez ma page Facebook Yves Jazzly, puisque nous avons les deux émissions, et la page GMC également, sur lequel je mets toujours les informations, la playlist, etc., etc. Si vous avez besoin de renseignements, vous vous souvenez, c'est dk51@sfr.fr. Je crois vous avoir tout dit pour l'instant. Nous allons donc démarrer le début de Claude Debussy, dans le sens où il y aura certainement beaucoup de choses à dire sur les œuvres orchestrales, etc., etc. Et donc, nous n'avons pas fini d'explorer toute cette période extrêmement importante. Je vous rappelle que l'émission commence à 20h30, non pas 19h30 comme pour Jazzy, mais c'est le deuxième jeudi du mois, ce qui fait que nous nous retrouvons trois fois par mois, le premier, deuxième et troisième jeudi. Voilà. Je vais aussi en profiter pour vous donner quelques informations sur le générique, parce que en général personne ne le fait, mais moi il me semblait important de le faire. Il s'agit du piano quintet, c'est un quintet agrémenté d'un piano numéro 1 de Gabriel Fauré, qui est en ré mineur, opus 89, dit Allegro, Allegretto moderato. Voilà. Alors, lorsque j'ai commencé à présenter et à réfléchir sur cette émission, c'était également pour mettre en lumière le fait qu'il y avait des correspondances entre le jazz et ses musiciens. Beaucoup de jazzmen se sont évidemment beaucoup inspirés de Debussy, de Ravel, Fauré, etc., etc. Et évidemment, beaucoup de compositeurs de films. Mais si vous écoutez attentivement ce piano pour quintette numéro 1, eh bien, ça n'est peut-être pas sans vous rappeler le titre que chantait Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Donc, je suppose que les compositeurs ont dû parcourir les partitions de ces musiciens pendant de nombreux moments et ont puisé dedans une incommensurable source d'inspiration. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui, moi, m'y fait penser. Je ne sais pas si c'est le cas, en tout cas. Ça y ressemble beaucoup. Et on va avoir un nombre incalculable d'exemples de ce type tout au long de l'histoire du jazz et de cette musique. Alors, dernier point, avant de vous parler de Debussy et de sa vie, enfin, de commencer à en parler, quelques mots sur le pianiste que je vous ai choisi ce soir, sur les préludes, le deuxième livre des préludes. J'ai choisi Sviatoslav Richter parce que c'est un de mes pianistes classiques préférés, quelqu'un qui n'a pas été forcément compris tout de suite au début. Il était né en 1915, en mars 1915, et il est mort en août 1997. Voilà, donc c'est un pianiste russe qui a fait une vie très spéciale, qui donnait peu d'interviews, qui était très sombre et assez fermé par rapport au public. Mais vers la fin de sa vie, il avait un peu plus de facilité à jouer. Et notamment, il a été l'initiateur à partir de 1963 d'un festival à côté de la ville de Tours qui s'appelait La Grange de Mellay et qui était un récital annuel jusqu'à quasiment sa mort. Juste comme une petite précision, c'est qu'il avait quelque chose d'important sur les prestations qu'il faisait en public, c'est qu'il voulait qu'il y ait une toute petite lumière sur le piano de façon à ce que les gens puissent focaliser sur la musique et pas sur la gestuelle de certains musiciens. Je pense évidemment à Keith Jarrett dans le jazz, mais beaucoup d'autres. Non, là, c'était vraiment complètement l'inverse. Il voulait vraiment qu'on écoute la musique. Voilà, c'est un pianiste. Pour moi, absolument extraordinaire, y compris même sur des choses où on n'avait pas forcément l'habitude de l'écouter, notamment sur le clavier tempéré de Bach, qui est absolument génial. Voilà, je pense vous avoir dit le principal, et puis bon, de toute façon, vous pouvez avoir toutes les informations maintenant en vente libre sur la toile. Voilà, pour ce qui est de Richter. Oui, alors si, j'ai oublié deux choses. Il existe un document cinématographique qui a été fait par Bruno Mont-Saint-Jean. C'est très rare puisqu'il refusait toute forme d'interview la plupart du temps, préservant sa vie privée. Et dernier point aussi, dans les trucs qu'il avait, c'est qu'il se mettait au piano et il comptait intérieurement jusqu'à 10 avant de pouvoir mettre ses mains sur le clavier, ce qui donnait encore une dramaturgie particulière à l'introduction de la musique. Voilà, c'était des petits trucs comme ça qu'il faisait et qui donnaient d'une personnalité assez particulière. Bien, donc maintenant nous allons commencer à parler un petit peu de Debussy. Donc il est né à Saint-Germain-en-Laye le 22 août 1862 et il est mort le 25 mars 1918 à Paris dans le 16e arrondissement. Alors, on a souvent classé Debussy comme étant impressionniste, mais lui refusait complètement cette appellation. Il refusait d'être appelé symboliste, il refusait d'être appelé impressionniste. Voilà. Il voulait en fait ne ressembler, non pas ressembler à rien, mais à rien de connu et à rien qui pouvait faire référence à autre chose que sa propre musique. C'était quelqu'un qui était très. Comment dire, je pense tout à fait conscient qu'il avait quelque chose à jouer, dans le vrai sens du terme, en termes de composition. D'ailleurs, après sa mort, je ne sais plus qui a dit, peut-être son ancienne maîtresse, que il n'avait jamais vraiment aimé personne d'autre que sa musique et lui-même. Voilà. Alors, on va commencer très vite par écouter tout de suite deux préludes du deuxième livre. Enchaîner coup sur coup. Et vous allez voir que même dans l'appellation des titres, il y a quand même quelque chose qui donne à penser à des images, en tout cas. Le premier s'appelle Brouillard et le sous-titre, ça est noté modéré, extrêmement égal et léger. Et les deuxièmes s'appellent Feuilles mortes, lent et mélancolique. Donc nous allons enchaîner ces deux titres dans un premier temps, et ensuite je vous donnerai d'autres indications sur Debussy, qui a eu vraiment beaucoup de choses à dire, et notamment sa relation avec les femmes qui n'étaient pas forcément des plus glorieuses, mais bon, voilà, ça fait partie des choses qui sont comme ça.
Thank you.
Vous êtes sur GMC+, Gabriel, Maurice, Claude et les autres, sur Radio Libertaire 89.4 et DAB+, maintenant, pour si vous êtes équipé, en région parisienne, hein, évidemment. Alors, les parents de Debussy s'appellent Manuel Achille, qui est un ancien militaire, et Victorine Manori, qui sont marchands de poterie et céramique, voilà. Et donc, c'est une famille, il y a quatre enfants, dont une mourra de méningite un peu plus tard. Alors, ils vont s'installer un moment, en 1870, Claude Debussy part avec sa mère qui est enceinte, et donc à Cannes, c'est là qu'il va avoir un premier contact avec la musique. Il faut savoir que la guerre de 1870 arrive le 16 février, et donc son père reste à Paris, mais il travaille dans une imprimerie, et il est licencié le 15 novembre, et il se retrouve sans emploi, et en fait il va se retrouver, le père de Debussy, à prendre un poste au service des vivres de la mairie du 1er arrondissement, qui sera un des futurs foyers de la commune. Alors, quand même, quelques mots sur les préludes que nous venons d'écouter, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est quand même extrêmement moderne. On est complètement dans une sorte de polytonalité harmonique, hein, quelque chose qui est toujours en développement. On ne revient jamais sur une formule exposé du thème, expansion ou développement du thème, et puis retour au thème. Non, là, on est complètement dans une évolution, ce que fera Ravel également beaucoup plus tard. Et donc, dans les feuilles mortes, c'est pareil, il y a une tonalité qui n'est jamais vraiment complètement identifiée. Enfin, je vous passe les détails purement harmonique, mais et pareil sur le rythme qui est à la fois ternaire et binaire, des mesures qui sont interrompues avec des syncopes et des figures plutôt irrégulières, ce qui fait que ça on change vraiment de choses comme ça. Alors, aussi, l'enregistrement a été fait en public, ce qui explique la qualité relativement médiocre de l'enregistrement. Mais alors, le livre 1, c'est encore pire. Il date de plus. Il est antérieur à celui-ci. Et vraiment, si j'ai le temps, j'essaierai de vous en passer un extrait. Mais la qualité est vraiment assez médiocre et à mon avis vaut pas le coup. Là, ça va encore, on est comme des choses relativement acceptables. Alors donc Debussy, c'est sa tante Clémentine qui a plus ou moins décelé chez lui des dispositions musicales. Alors, et c'est elle qui lui aurait déniché son premier professeur de piano, un obscur violoniste italien qui habitait à Cannes et il s'appelait Jean Cerutti. Voilà. Alors, ce qui est aussi important, c'est qu'à Paris, la commune éclate, hein, évidemment. Nous, à Radio Libertaire, on connaît ça. Et donc, son père s'engage dans la garde nationale où il est promu. Et après maintes péripéties, il se retrouve capitaine à la tête d'un bataillon. Et puis, il est arrêté, libéré 2 jours plus tard et de nouveau emprisonné le 22 mai par les troupes de MacMahon. Voilà, en fait, il est interné avec d'autres communards au camp de Satory. Il subit plusieurs interrogatoires, il est suivi d'un procès. Le conseil de guerre est sans appel, il lui donne 4 ans de prison. Et après une année d'incarcération, la peine est commuée en 4 ans de suspension des droits civiques et familiaux. Voilà, le reste de la famille, quant à elle, est resté à Cannes pendant ces événements. Et donc, elle va rentrer, Victorine Debussy, donc sa mère, va rentrer à Paris avec ses 4 enfants et ils vont louer un petit 2 pièces rue Pigalle. Alors, le père donc de Debussy, en prison, il rencontre des communards, dont un prisonnier qui s'appelle Charles de Sivry, qui est musicien autodidacte et qui était notamment chef d'orchestre, et il était le beau-frère de Paul Verlaine. Alors les 2 hommes se lient d'amitié et échangent leurs soucis. Et le père de Debussy, sans doute, touche quelques mots à Sivry sur son fils et ses facilités musicales, ce qui fait que Sivry propose de confier Debussy enfant à sa maman, Madame Antoinette Flore Mottet de Floreville. Cette dernière avait à l'époque 48 ans et qui était elle-même excellente pianiste. Elle avait même reçu des leçons de Frédéric Chopin. Claude Debussy devient donc l'élève de Madame Mottet, mais on ne sait pas si ses cours débutèrent avant ou après la libération de Sivry du camp de Satory, où il était emprisonné. Qui fut libéré, lui, relativement rapidement parce qu'il a bénéficié d'un non-lieu. Voilà. Il est à noter que la fille de Madame Mottet, Mathilde, est l'épouse de Paul Verlaine, avec qui elle s'installe rue Nicolet, aux côtés des Mottet, non loin de la rue Pigalle où logent les Debussy. Visiblement, les leçons de Madame Mottet ont été d'une bonne qualité parce qu'après une année, Claude Debussy, qui a 10 ans, envisage, enfin en tout cas peut envisager de rentrer au conservatoire de Paris. Lui qui fréquentait aucune école, contrairement à ses frères et sœurs, puisqu'il a appris à lire et à écrire et à compter par sa mère. Voilà, donc Madame Mottet l'encourage dans cette voie et puis conseille à ses parents de lui faire tenter le concours d'entrée. Alors pour ça, il faut une relation pouvant s'appuyer sur sa candidature. Le père, Manuel Achille, donc père de Debussy, parvient à joindre le compositeur Félicien David, membre des comités d'examen de chant, d'orgue et de déclamation lyrique. Il accepte de parrainer le jeune Debussy et envoie le billet suivant au secrétaire du conservatoire, Émile Réty. Cher monsieur Réty, je vous adresse un enfant que son père désirerait faire entrer dans une classe de piano. L'enfant a un bon commencement. Voyez par vous-même, si vous pouvez l'admettre, vous me feriez plaisir, bien à vous, Félicien David. Alors nous allons maintenant écouter deux autres préludes. Le premier s'appelle La Puerta del Vino, qui est un mouvement de habanera avec de brusques oppositions d'extrême violence et de passionnée douceur. Voilà, ce sont les sous-titres des indications qui sont assez humoristique et en même temps qui donne tout de suite pour l'interprète ce qu'il doit respecter d'une certaine manière. C'est vraiment déjà des directives tout à fait intéressantes. Et le deuxième que nous allons écouter s'appelle « Les faits sont d'exquises danseuses, rapides et légers ». Ce que je voulais vous dire à propos du deuxième prélude, lorsque vous allez réécouter l'émission, le premier et le deuxième sont enchaînés. Et à ce titre, on a l'impression vraiment d'une continuité sans rupture. C'est même assez surprenant. Mais dans le deuxième, il y a des choses qui, moi, me rappellent Duke Ellington, et plus précisément même Charlie Mingus rendant hommage à Duke Ellington dans le magnifique Duke Ellington, Sound of Love. Alors, je ne sais pas si Mingus avait écouté Debussy, ou certainement, je pense que tous l'ont fait, Miles Davis, le premier à l'avoir plus ou moins... dit, c'est le trompettiste Bix Beiderbecke qui est parti vraiment très très vite à partir des années 20 vers quelque chose d'un peu différent, d'un peu ailleurs, et justement il était très très inspiré par Claude Debussy, et d'ailleurs il y a une composition de Bix Beiderbecke qui s'appelle In the Mist, c'est dans le brouillard, et on est très proche de cette idée, puisque Claude Debussy est mort en 1918, donc il a eu connaissance du jazz et le jazz a eu connaissance de Debussy. Voilà. Donc je ne sais pas lui-même si dans la biographie de Duke Ellington, lorsqu'il dans son autobiographie même, il n'en parle pas. Bon, il dit simplement qu'il y a la bonne et la mauvaise musique, point barre. Mais voilà, je pense qu'il y a une véritable interaction, parce que beaucoup de choses harmoniques de ces musiciens, de Forêt, de Debussy, évidemment de Maurice Ravel, ont été très très empruntés par les jazzmen, sans qu'ils s'en défendent en plus. C'était vraiment quelque chose qui, avec une manière évidemment de travailler le tempo très très différente, mais au niveau de l'harmonie, il y a des choses qui sont très très proches et qui ont une connexion absolument claire, nette et précise. Donc, nous allons écouter les deux préludes que je vous ai indiqués. Voilà, excusez-moi, je reprends mes notes. La Polka d'Elvino et Les faits sont d'exquises danseuses.